J'aimerais commencer une série de messages sur cette personne, le personnage d'Abraham qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et ici, au chapitre 12, c'est l'appel de Dieu. L'appel, la vocation de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai, et Lot, fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve là vers à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Aï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Néguev. Amen. Voilà, nous connaissons bien ce personnage de l'Ancien Testament, le père des croyants. Et c'est un modèle pour nous, un modèle de foi, parce que dans toutes les épreuves qu'il a traversées, les difficultés, parfois même insurmontables, il a toujours placé sa confiance en Dieu. Il a eu aussi des moments de relâchement, de doute, comme nous pouvons en connaître, où il s'est laissé abattre peut-être par l'impossibilité de que Dieu réalise un jour sa promesse d'avoir un enfant. Alors, il y a eu cette histoire avec Ismaël. Mais néanmoins, nous voyons en lui de la ténacité, nous voyons de la force, nous voyons du courage, nous voyons en lui de la persévérance dans l'obscurité, même quand tout est sombre. Eh bien, il nous montre en fait, il nous indique le chemin de la foi et de la confiance en Dieu quand tout semble perdu. Alors, le premier point que je voulais partager, c'est la famille déjà dont il est originaire. Quelle est la famille d'Abraham? Alors, si on lit les versets qui précèdent, on voit qu'il est de la descendance de Sem. Hein, Noé avait trois fils, Sem, Japhet et Cham. Et c'est Sem qui a respecté Noé. Vous savez qu'à un moment donné, Noé s'est enivré. Il a bu du vin et il est devenu ivre. Et à ce moment-là, Cham s'est moqué de son père. Et c'est là qu'on voit que Sem a pris soin de couvrir son père et il a été respectueux. C'est de cette lignée, donc, de lignée de Sem que va sortir Abraham, dont le père s'appelait Térakh. On le voit au chapitre 11. Térakh, malheureusement, n'a pas toujours été un bon exemple. Alors, si on lit Josué 24, 2, il est dit, « Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térakh, donc père d'Abraham et de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, à Ur, en Chaldée, et ils servaient d'autres dieux. » On voit ici que Térakh était donc de ceux qui, à la fois, croyaient que Dieu existe, mais en même temps, il avait été contaminé par le polythéisme. Il adorait d'autres dieux que le Dieu véritable. On pourrait parler d'une famille de compromis. Il y avait du compromis, il y avait du péché. Il y avait dans sa maison une pièce, comme c'était la coutume, réservée à une idole. Et Térakh, à la fois, faisait monter ses prières vers Dieu, mais en même temps, il n'arrivait pas à rompre avec l'idolâtrie. On a plusieurs familles comme cela dans la parole de Dieu, où c'est le compromis. Je pense à Gédéon, lorsque Dieu se révèle à Gédéon et qu'il lui dit « Tu es un vaillant héros, va délivrer Madian en mon nom ». Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans la maison de son père. Et qu'est-ce que nous découvrons dans la maison de son père? Il y avait là un poteau sacré, c'est-à-dire une idole qui était adorée, et il a commencé par la renverser. Et donc, on voit que ce compromis a existé du temps d'Israël, du temps de nos pères, et malheureusement, ça a influencé bien des familles. Alors, ce n'est pas une raison. Et ce n'est pas parce que notre famille est dans le compromis, ou que notre famille ne craint pas Dieu, que nous-mêmes, nous devons suivre les traces de notre propre famille. Et c'est là où on voit qu'Abraham va nous donner un exemple de rupture. Il va rompre avec les traditions mauvaises que lui ont inculquées ses parents, en tout cas en ce qui concerne l'idolâtrie, et il va s'attacher au Dieu, l'Éternel, au Dieu qui s'est révélé à lui dans son cœur. Alors, je pense qu'on peut faire le bon choix. On peut même rompre une chaîne de tragédie. Il y a des fois où on est né dans un foyer, par exemple, athée. Mais ce n'est pas parce que nos parents étaient athées que nous-mêmes, on va rester athée toute notre vie. On peut faire un autre choix. Je prends l'exemple de mon arrière-grand-père. Ça remonte à bien des années. Mais il était athée. Il ne connaissait pas Dieu. Il était religieux, peut-être. Il avait plus ou moins une forme de croyance dans l'existence, peut-être, d'un Dieu. Mais il ne croyait pas vraiment. Il n'avait pas la foi. Et alors qu'il traversait une ruche, c'était à Paris, il a entendu le message de l'Évangile qui a été témoigné dans la rue avec l'armée du salut qui organisait des réunions dans la rue. Et à ce moment-là, il est interpellé par le message de l'Évangile et il a donné son cœur au Seigneur. Il est ensuite devenu chrétien, il s'est engagé par le baptême et il est devenu pasteur par la suite. Il a servi comme missionnaire en Afrique du Nord. Alors, mon arrière-grand-père ne connaissait rien de Dieu. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, il en a parlé à ses enfants. Ses enfants se sont convertis et de mon arrière-grand-père, mon grand-père est devenu chrétien, il est devenu pasteur. Qui en a parlé à ses enfants? Et mon père est devenu pasteur à son tour et nous en parlons à nos enfants. Alors nous pouvons rompre une succession de malédictions parce que c'était l'athéisme et nous pouvons introduire une succession de bénédictions dans nos familles. Si nous croyons, si nous introduisons la foi, si nous partageons la parole de Dieu autour de nous, nous verrons aussi nos bien-aimés, nos proches, se tourner vers le Seigneur. Et quelle joie de voir la bénédiction s'installer. Et donc, de génération en génération, la grâce de Dieu continue à couler. Tout ça parce qu'une personne, un jour, a accepté d'ouvrir son cœur à Jésus. Alors, nous pouvons, nous, peut-être ce matin, être les premiers peut-être d'une génération. Mais si nous parlons du Seigneur autour de nous, nos enfants vont être touchés par la grâce de Dieu. Leurs enfants vont être touchés et ça va faire boule de neige et ça va permettre que l'Évangile continue à aller de l'avant. Alors ça, c'est possible. C'est arrivé dans ma famille, c'est arrivé dans la famille d'Abraham. Abraham a été le premier à rompre avec le compromis. Mais si vous regardez la suite, Abraham, ses enfants se sont tournés vers le Seigneur, leurs enfants, et ça a donné tout le peuple d'Israël. Que Dieu soit béni pour cette bénédiction. Donc Dieu transforme la malédiction en bénédiction pour nos familles et nous bénissons le Seigneur quand nos familles se tournent vers Dieu. C'est encore une grâce. C'est aussi la liberté de chacun, bien sûr, puisqu'on n'est pas contraint de venir au Seigneur. On l'a fait par choix, par révélation. Mais néanmoins, il y a quand même une grâce particulière, une bénédiction quand on croit en Dieu. Abraham habitait dans une grande ville à Ur en Chaldée et cette grande ville avait les mêmes tentations, les pièges que nous connaissons dans notre monde. Il y avait des influences, il y avait de l'idolâtrie, il y avait des festivités, il y avait de l'immoralité, exactement comme aujourd'hui. Et il fallait être fort, il fallait être ferme pour se tenir dans les valeurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien, le monde dit c'est mal, mais ce qui est mal, le monde dit c'est bien. Les valeurs sont renversées. Mais dans la parole de Dieu, nous avons une véritable norme, c'est ce que Dieu nous enseigne, de nous attacher à ses promesses. Paul dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Alors on est dans un siècle qui est à l'envers des valeurs de Dieu, mais ce n'est pas nous qui allons nous conformer à ce siècle-là. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment peut-on discerner la volonté de Dieu? Eh bien, c'est en laissant la parole de Dieu travailler dans notre cœur, laisser la pensée de Dieu descendre au plus profond de nous, Et à ce moment-là, nous allons nous conformer à la norme de Dieu et faire la volonté de Dieu. Mais le monde et ses principes et ses influences bien, ne doivent pas nous modeler, ne doivent pas nous inspirer. Nous avons trouvé en Christ la vraie liberté, la liberté de pouvoir être délivré du monde et de ses convoitises. Néanmoins, la vie est parfois dure et Abraham a connu une souffrance, une douleur. Il y a son frère qui est décédé prématurément. Et c'est aussi une souffrance pour Térakh parce que la Bible dit donc, que le père était présent. En fait, son fils est mort sous les yeux de son père. Et ça a généré dans le cœur de Térakh et puis Abraham aussi, leurs deux frères qui restaient, puisqu'ils étaient trois frères, Abraham, Nakhor et Haran. Et Haran est mort en présence de son père. Il y a eu comme un drame, il y a eu comme une souffrance dans cette famille. C'est pour ça que Lot, le fils de Haran, va être recueilli par Abraham par la suite. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi nous arrive-t-il de telles souffrances? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la maladie? Pourquoi des fois même la mort? 1 Corinthiens 13, 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir. » C'est-à-dire un miroir, à l'époque, ce n'était pas très très net comme aujourd'hui. « D'une manière obscure. Mais alors, nous le verrons face à face, quand nous serons au ciel. Aujourd'hui, je le connais en partie, mais alors, je le connaîtrai comme j'ai été connu. » Frères et sœurs, nous ne comprenons pas toutes les épreuves et les drames qui nous arrivent. Mais néanmoins, nous faisons une chose, c'est que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Un jour, il y a un pasteur comme ça qui a perdu son enfant. Et quelqu'un lui a demandé, mais comment faites-vous pour remonter la pente après ce décès? C'était tellement dur. Et le pasteur a répondu ceci, je fais la distinction entre ce que je sais que Dieu est bon, et ce que je ne comprends pas, je sais qu'un jour je comprendrai toutes choses. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas toutes choses. Mais je sais que Dieu est bon. Et c'est comme ça qu'il est parvenu à surmonter cette épreuve incompréhensible. Alors je dirais qu'aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, nous ne comprenons pas toutes choses. Et nous pouvons poser des questions et dire pourquoi Seigneur. Mais néanmoins, nous savons que Dieu dirige et gouverne l'univers et que rien ne nous arrive que Dieu n'ait permis. Et si même nous passons par la souffrance, nous savons que Dieu peut utiliser cette expérience pour nous aider à aider les autres et à faire du bien autour de nous. Ça, c'est une grâce aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan de Dieu pour nos vies. Je dirais qu'on ne le comprend pas toujours, mais néanmoins, il s'accomplit. Je vous donne un exemple. Quelquefois, dans la vie, on a l'impression qu'on fait deux pas en avant. Et puis, un peu plus loin, on fait trois pas en arrière. Et on se dit, catastrophe. Mais quelques temps après, on fait cinq pas en avant. Et la vie est ainsi faite, mais quand on regarde au bout d'un certain temps, on se retrouve à un certain point, finalement, que Dieu avait prévu. Mais néanmoins, le parcours est parfois un peu chaotique. Ça avance, ça recule, ça fait des détours, il y a des échecs, il y a des remises en question. Des fois, on repart à zéro. Alors, c'est là que nous ne comprenons pas du tout le plan de Dieu. Mais au bout de quelques temps, quand nous sommes arrivés à la destination que Dieu veut, à ce moment-là, nous disons « oui, tout ce que Dieu fait » est bon, et même de nos échecs, il en permet des bénédictions et des victoires. Deuxième point, c'est l'étape à Charan, puisque la Bible nous dit au chapitre 11 qu'ils avaient le projet d'aller en Canaan, mais ils se sont arrêtés à Charan. D'après Étienne, c'est Abraham qui reçoit la direction divine de quitter Ur en Chaldée et de se rendre en Canaan. Donc il a pris son neveu avec lui, il a pris son père, il a pris sa famille. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'ils ne sont pas allés en Canaan directement. Ils ont fait une grosse halte à Charan, qui est une ville à l'entrée, en fait, à la porte de Canaan, mais c'est la fin de la Mésopotamie. Et ils ont tellement attendu ici que la Bible dit qu'ils y demeurèrent. Ça veut dire qu'ils ont habité là, ils ont prospéré ici, ils ont travaillé ici. Et finalement, ils se sont arrêtés en cours de route. Ils étaient à plus des deux tiers de la route. Ils étaient presque à l'entrée du pays de Canaan. Et pourtant, ils se sont arrêtés. Alors, qu'est-ce que représente Charan? Charan, c'était la dernière ville de la Mésopotamie, juste avant de quitter justement la Mésopotamie et les dieux, dont Térakh était manifestement très attaché, puisque Charan, c'était la dernière ville où on adorait le même dieu qu'Aur en Chaldée, le dieu de la lune. Et Térakh n'a jamais voulu quitter cette ville. Alors Térakh, c'est un arrêt fatal pour lui, parce que Térakh ne mettra jamais le pied dans le pays de la promesse. Et Térakh, c'est un exemple pour nous dire, eh bien, nous pouvons bien commencer la route pour aller vers Canaan, le pays de la promesse, la bénédiction, mais il y a des fois des endroits où nous allons nous arrêter, et si nous restons là, nous mourrons à Charan, nous mourrons dans nos péchés, nous mourrons avant d'avoir atteint le pays de la bénédiction. Alors on est tous en route, et je suis sûr que ce matin, tout le monde est en route, on cherche à faire la volonté de Dieu. Cependant, dans notre route, certains vont nous arrêter quelque part, peut-être de la famille, peut-être des amis, ils ne comprennent pas ce que vous avez reçu, et ils vont vouloir vous faire rester là où vous êtes, que vous n'alliez pas jusqu'à Canaan. Mes frères et sœurs, Dieu a placé dans notre cœur, nous sommes comme Abraham, nous ne sommes pas comme Térakh, Dieu a placé dans notre cœur une promesse. Et cette force, cette promesse qui est en nous, nous pousse à aller de l'avant et à aller vers la destination Canaan, le pays promis. Alors ne restons pas à proximité, ne restons pas dans le pays, on va dire, infructueux de Charan, où il n'y a pas la bénédiction. Et pourtant, ils n'étaient pas loin, ils étaient à côté, mais néanmoins, Térakh a manqué le but, il a manqué la bénédiction. J'en arrive au chapitre 12. Nous avons maintenant une belle promesse pour Abraham, puisque la Bible dit que Abraham a dû attendre que son père meure pour pouvoir continuer le parcours. Donc maintenant que Térakh est mort, malheureusement il n'a pas accédé au pays de la promesse, eh bien Abraham va reprendre la course dans Genèse chapitre 12, verset 1er. Et c'est là qu'on voit que Dieu va appeler Abraham à de grandes choses. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Dieu a choisi un homme de 75 ans pour accomplir une promesse incroyable, qu'il aurait un enfant qui serait, qui serait à l'origine d'un peuple nombreux. On voit partout dans la Bible que Dieu n'a pas les mêmes pensées que nous. La plupart d'entre nous, si on avait voulu fonder une famille ou ne serait-ce que ou envisager un peuple, on aurait pris des jeunes, au moins, beaucoup plus jeunes, un jeune couple que Abraham. Il était trop âgé pour envisager une telle aventure. Mais Dieu a d'autres notions qui nous échappent et d'autres paramètres. Et si nous voulons suivre et faire sa volonté, il va nous falloir apprendre à compter sur la grâce de Dieu, sur sa présence, sur son inspiration, sur les possibilités qu'il va mettre devant nous, qui ne sont pas celles du monde. Alors il met Abraham à part et lui demande de quitter sa famille, quitter toute chose. Il lui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Mais c'est un homme seul. « Je rendrai ton nom grand », c'est un inconnu. « Je ferai de toi une source de bénédiction », il n'a rien. Donc on voit que Dieu va faire de grandes choses avec de faibles moyens, de faibles outils, et ça représente nos capacités. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, frères et sœurs, nous sommes très limités, très faibles. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire l'œuvre de Dieu, parce que Dieu nous a envoyés pour cela. Voyez, Abraham est devenu le père d'une grande nation, puisque d'Abraham est sorti le peuple d'Israël, qui existe encore aujourd'hui, mais aussi d'Abraham est sorti le peuple de Dieu, puisque Paul dit que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Nous sommes reliés spirituellement aussi à Abraham. Et par Christ, en fait, puisque Christ est descendant lui-même d'Abraham, Christ était juif, descendant du peuple d'Israël, il était juif, descendant d'Abraham, eh bien la promesse maintenant s'est accomplie, toutes les nations sont bénies en Abraham parce que Christ est venu pour nous donner une bénédiction mondiale. Quand Jésus a réuni les 12 avant de monter au ciel, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors ça, c'est une vision mondiale. Et on voit qu'on rentre dans la bénédiction d'Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Faites de toutes les nations des disciples, et c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, quelle grâce, quelle bénédiction, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors frères et sœurs, nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham, nous sommes entrés dans « toutes les familles de la terre seront bénies en toi par Christ ». Au verset 4, on voit un autre élément, c'est l'obéissance. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. J'aime bien le Nouveau Testament qui traduit comme ça. Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas exactement dans quelle aventure il s'était embarqué, et c'est vraiment ça la marche par la foi. À chaque pas, il devait faire confiance à Dieu. Et on aimerait tellement tout savoir d'avance. Et finalement, Dieu nous révèle les choses par étapes. Mes frères et sœurs, l'important, c'est d'avancer. Il ne savait pas exactement comment ça allait se passer, mais il a obéi et il est parti. Il faut se mettre en mouvement et faire confiance à Dieu pour le reste. Il y a quelques temps, j'entendais le témoignage de Luc Dumont, qui est un chanteur canadien, qui racontait qu'il est parti faire de la montagne avec deux amis. Et alors qu'il était environ à 2000 mètres d'altitude, ils avaient une arête à traverser qui était, c'était un petit peu dangereux. Il ne fallait surtout pas regarder à gauche ou à droite parce que c'était le vide des deux côtés, mais il fallait bien marcher pendant une quarantaine de mètres pour aller de l'autre côté. Il était avec ses deux amis, donc il est passé le premier, son ami derrière, et ils ont traversé. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent, c'était un cadre magnifique, la montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont regardé en arrière, et le troisième, il était coincé au début, il était agrippé à l'arête à quatre pattes, et il ne pouvait pas avancer, il était complètement bloqué, terrorisé à l'idée d'avancer. Alors ils sont retournés en arrière, ils lui ont parlé, et en fait, il avait le vertige, il avait une phobie du vide. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de garder le sang-froid quand il y a le vide. Alors à ce moment-là, ils lui ont dit, écoute, on va se mettre devant, quelqu'un devant, l'autre derrière, et puis on va... Et puis lui, rien à faire, il ne voulait pas se mettre debout, il est resté à quatre pattes. Et en fait, il a fait tous les 40 mètres, 10 cm après 10 cm, en fait, il a fait tout à quatre pattes, comme ça a duré peut-être une heure, le temps de tout traverser. Mais néanmoins, il est arrivé de l'autre côté quand même. Et après, ils ont fait une photo, il dit, ils ont fait une photo au sommet de la montagne, et il dit, tous les trois, ils levaient les bras comme ça, on a réussi, on a gagné. Mais même celui qui avait fait à quatre pattes, il levait les bras, on a gagné, on a réussi. Vous voyez, personne ne savait comment il avait traversé cette corniche, mais néanmoins, il était réussi à passer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reculé à ce moment-là, mais il a avancé. Il a avancé à son rythme. Il a avancé avec ses capacités, avec ses moyens. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est d'arriver de l'autre côté, frères et sœurs. Peut-être aujourd'hui, on est un petit peu à quatre pattes, on n'arrive pas à avancer. Mais l'important, c'est de faire un petit peu après un petit peu. Et puis après, ça va se dégager et on va pouvoir reprendre la marche normale. Il y a des passages comme ça, il nous faut les traverser. Et puis, on pourra lever les bras et dire, oui, nous sommes arrivés au ciel. Nous avons triomphé sur la terre, nous avons vaincu tous les obstacles, nous sommes arrivés au bout de la course. Eh bien ça, ce sera la ligne d'arrivée, ça sera pour le ciel. Alors, nous devons toujours dépendre de Dieu. Le passage est difficile, le passage est étroit, il est périlleux. Abraham aurait pu rester à Charan à ce moment-là, il avait prospéré, la Bible dit qu'il s'était installé là, ils avaient des biens, des propriétés. Il aurait pu éventuellement retourner à Ur, mais il a choisi de quitter le confort, les biens matériels, pour suivre le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quelque chose en lui le pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est vrai pour les croyants, frères et sœurs. Si nous avons Jésus en nous, il y a quelque chose qui va nous pousser à chercher Dieu, qui va nous pousser à prier, qui va nous pousser à faire des choses pour Dieu. Et lorsqu'il arrive enfin dans le pays promis, et peut-être il s'attendait à un petit temps d'accalmie, un petit temps de repos, eh bien, il a une déception. La Bible dit que les Cananéens étaient bien implantés dans le pays. Dieu lui a donné un pays, une promesse, mais en réalité, dans le pays, il y a des Cananéens qui sont là et qui n'ont pas l'intention de laisser leur place à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est peut-être la déception dans le sens où Abraham pouvait s'attendre à avoir un pays, ben, tout est prêt, j'arrive, et voilà, je vais pouvoir installer ma nation dans ce pays. Mais non. Et ça, des déceptions, nous en rencontrons même dans notre marche avec le Seigneur. Quelquefois, on a l'impression, Dieu nous a fait une promesse, mais ça ne se passe pas exactement comme on avait imaginé. Alors, est-ce qu'on va devenir amer ? Est-ce qu'on va fermer la porte au Seigneur et dire, bien, finalement, Dieu ne répond pas, Dieu n'a pas agi selon sa promesse ? Non. Abraham a une autre attitude. J'aime l'attitude d'Abraham à ce moment-là. C'est une attitude où il aurait pu devenir amer, mais la Bible dit que quand il a vu ça, il s'est tourné vers Dieu et il a construit là un autel à l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a passé du temps dans l'adoration et dans la louange à son Dieu. Il n'était pas amer contre Dieu, il n'était pas déçu de Dieu. Et il va apprendre, dans ce contexte difficile, à développer un autre regard. Oui, les Cananéens sont là dans le pays. Oui, il y a des difficultés qui nous environnent. Mais néanmoins, le Seigneur règne dans la gloire et il est tout puissant. Et il va développer ce regard-là, c'est le regard de la foi. On ne peut pas changer les circonstances. Les Cananéens sont là. Les difficultés nous environnent. Mais néanmoins, on peut croire dans notre cœur que Dieu va faire quelque chose en notre faveur et qu'il va agir pour nous. C'est ce témoignage qui est arrivé il y a quelques années à un couple qui était parti faire un voyage de noces. Et c'était alors qu'ils étaient sur la plage à faire une balade à cheval, la jeune femme est tombée en arrière, les mains dans le sable, et lorsqu'elle s'est relevée, elle n'était pas blessée, mais elle ne retrouvait plus sa bague, la bague magnifique que son mari lui avait achetée avec un beau diamant. Et lorsqu'ils ont cherché creusé dans le sable, plus ils cherchaient, plus il leur semblait que c'était impossible de la retrouver. Les vagues venaient frapper le sable et retiraient. À chaque fois, ça changeait de place et on n'arrivait pas à retrouver quoi que ce soit. Et au bout de 2-3 heures, ils ont laissé tomber. Ils sont allés à l'hôtel et là, la femme était vraiment découragée. Et son voyage de noces était gâché. Et elle était déprimée. Et à un moment donné, elle a dit, mais je ne vais pas laisser cet événement gâcher mon voyage de noces. Je vais décider de faire confiance à Dieu. Seigneur, je te remets ce problème et je te fais confiance. Seigneur, tu diriges l'univers. Et elle a fait une simple prière de foi comme cela. Et puis, elle a eu la paix dans son cœur à ce moment-là. Elle s'est sentie soulagée. Alors, 2-3 jours après, ils sont retournés, ils continuaient leur voyage de noces. Ils sont retournés au bord de la plage et ils se promenaient. Un beau coucher de soleil, ils se sont assis au bord de la mer. Et lorsqu'elle a mis ses mains dans le sable, elle a senti comme un petit caillou, quelque chose qui était dur. Et lorsqu'elle a creusé, elle a retrouvé la bague qu'elle avait perdue quelques jours auparavant. C'est Dieu qui permet ces choses-là. C'est impossible de pouvoir retrouver une bague perdue comme cela. Et ce témoignage nous montre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible pour Dieu. Au verset 7, nous voyons maintenant la prière de la foi. Lorsque Abraham va choisir de faire confiance à Dieu, l'Éternel apparaît à Abraham, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Oui, Seigneur, il a renouvelé sa promesse. Abraham est le père de la foi. Il croit plus les paroles de Dieu que les paroles du monde. Mais qu'est-ce que nous allons faire quand les promesses de Dieu nous semblent tellement éloignées de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons? Alors, Abraham a préféré faire confiance à Dieu et à ses paroles plutôt qu'à ses yeux qui voyaient les Cananéens, plutôt qu'à ses émotions qui pouvaient lui dire « je suis déçu », plutôt qu'à ses doutes et ses craintes, il a dit « je vais croire Dieu plus que tout ». Et quand les choses ne se passent pas comme on a prévu, comme on a espéré, alors vient la déception. Et qu'est-ce que nous allons faire? Parfois, nous sommes dans le psaume 13. Le psaume 13, verset 2, j'appelle ce psaume le psaume des « jusques à quand ?»« Jusqu'à quand, Seigneur ?» Au début, le psalmiste dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?»« Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et on ne comprend pas pourquoi. « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?»« Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Et pendant tout un temps, il va exposer sa souffrance devant Dieu. Et dans les psaumes, on voit que beaucoup de prières ont trait justement à exposer nos difficultés, nos souffrances. Mais je remarque que le psalmiste n'est pas resté au verset 3. Il a continué, continué, continué. Et si vous arrivez au verset 6, le psalmiste dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. » Il a bâti un autel à l'Éternel. En quelque sorte, il était dans les questionnements. « Seigneur, jusqu'à quand ? Et pourquoi tous ces problèmes m'arrivent ? Et pourquoi moi ? Et pourquoi ces difficultés ? Je t'ai fait confiance. » C'est « jusqu'à quand, Seigneur ? Pourquoi tardes-tu ? » Ce sont nos questions. Nous ne savons pas, nous n'avons pas les réponses. Mais néanmoins, si nous ne pouvons pas changer les circonstances qui sont autour de nous, nous pouvons faire comme le psalmiste ici dire, je vais changer d'attitude et je vais chanter la bonté de Dieu. Je vais louer mon Seigneur, je vais l'adorer, je vais avoir l'allégresse dans le cœur, c'est la joie de Dieu qu'il va lui donner à ce moment-là. L'Éternel m'a fait du bien. Voilà comment Abraham adore Dieu. Nous n'adorons pas Dieu quand tout va bien seulement, mais nous adorons Dieu aussi quand les temps sont difficiles et nous disons, oui Seigneur, tu diriges toutes choses et ta volonté s'accomplira de toute manière. Alors il s'est installé par la foi dans ce pays de la promesse. Il a pris possession de la terre que Dieu lui a donnée. Il n'a pas cherché à raisonner, à savoir comment Dieu allait faire, parce que ça, on ne peut pas comprendre. Il a juste dit, mais Dieu va le faire, maintenant je le prends par la foi. Merci Seigneur pour le pays que tu m'as donné. Je sais que tu vas accomplir ta parole. Ta parole me dit que ma descendance habitera ce pays, je le crois. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je le crois de tout mon cœur. En fait, il ne s'est pas chargé des soucis de Dieu, parce que les soucis de Dieu, c'est de mettre tout ça en œuvre. Mais il a fait confiance à Dieu pour la réalisation. Ne nous chargeons pas des soucis que Dieu seul va mettre en place, parce que si on commence à vouloir raisonner, savoir comment Dieu va faire, on n'y arrivera pas. Et on sera bien découragé. En conclusion, on voit qu'ici, il y a un appel de Dieu. C'est l'appel d'un homme. Ça peut être l'appel d'une femme à quitter, à rompre. Peut-être avec une famille qui est dans le compromis, qui est dans l'athéisme, qui est loin de Dieu. Et de susciter une nouvelle génération, une génération d'hommes et de femmes de Dieu qui entendent la voix du Seigneur et qui croient dans les promesses de Dieu. Et peut-être vous allez être le premier ou la première à inaugurer cette nouvelle voie de bénédiction pour votre propre famille. Mais c'est ce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous avez une autre destinée, vous avez une destinée avec le Seigneur. J'aimerais prier quelques instants. Tenons-nous devant le Seigneur et méditons sa parole quelques instants, cet appel. Parce que Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu appelle des hommes et des femmes à renoncer au péché, à le suivre, à vivre une vie différente, une vie qui est marquée par la foi, qui est marquée par cette confiance en Dieu que tout ce qu'il dit, il accomplit. Et ce matin, le Seigneur aimerait dire à un cœur que le Seigneur vous appelle à changer de vie, le Seigneur vous appelle dans une autre destinée, une nouvelle destinée. Ce n'est pas la destinée de ce monde, c'est la destinée que Dieu veut pour vous. Vous êtes ses enfants, vous êtes chers à son cœur, et Dieu a des promesses et des bénédictions pour votre âme, pour votre vie. Faites-lui confiance tout simplement, ouvrez votre cœur à sa parole, à ses promesses. Faites comme Abraham tout simplement, en dites « oui, je vais obéir à cette voie ». Parce que nous ne sommes plus de ce monde, nous allons obéir à la voix de Dieu. Et nous allons aller dans le pays de la promesse. Et nous allons là bâtir un autel à l'Éternel. Même si les situations sont défavorables, nous dirons oui, le Seigneur règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, le Seigneur est fidèle. Oui, le Seigneur est bon pour nous. Et il va faire de grandes choses.